Bienvenue dans Secrets de Créateur, vous écoutez un extrait du deuxième épisode de la première saison avec notre invité, le photographe Quentin Descaillets.
Dis-moi Quentin, alors dans ton processus créatif, j'aimerais que tu nous le décrives un petit peu. Si aujourd'hui tu as en face de toi un stagiaire, un apprenti, un débutant ou un photographe qui n'y connaît rien au portrait, au type de portrait que tu fais en tout cas, comment tu décrirais ton processus créatif? D'où te vient l'idée? Est-ce que l'idée vient tout le temps de toi? Est-ce que tu t'entoures? Est-ce que tu t'inspires de magazines, de choses que tu vois sur Internet, etc. etc. Et comment tu vas mettre en place le shoot? Comment tu vas t'entourer? De qui tu vas t'entourer? Où est-ce que tu vas réaliser ces photos-là? Là, j'ai vraiment parlé des portraits. Hein. Où est-ce que tu vas réaliser ces photos? Comment tu recrutes peut-être tes modèles? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu peux globalement nous résumer le processus créatif, ses difficultés et les différentes étapes en fait, pour réussir à faire ce type de photos? Sans dévoiler tes secrets, bien sûr.
On va avoir besoin de la journée entière.
Alors, c'est le challenge, c'est d'être concis. Imagine-toi que tu as en face de toi vraiment... un stagiaire, un apprenti.
Non, on va commencer par le début. J'ai de la chance d'avoir, ce que je disais avant, une sœur qui est dans la direction artistique, et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidé parce qu'elle a eu la chance de faire une école d'art contrairement à moi. Je suis entièrement autodidacte, autodidacte c'est un grand mot, mais j'ai pas suivi d'école. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu de la chance par elle de pouvoir apprendre certaines choses dans la conceptualisation d'idées, dans la manière de trouver des idées aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai pas forcément de secret là-dessus, j'en parle assez souvent et assez ouvertement. Au niveau de la recherche d'idées, j'essaye généralement déjà de pas rechercher sur ce que font d'autres photographes. Il y a des fois où oui, je vais piquer des idées à gauche à droite, je faisais beaucoup à mes débuts. J'ai même eu fait de la copie pour apprendre techniquement en fait. Après, il faut toujours citer ses sources quand on fait de la copie, mais c'est intéressant pour arriver à apprendre les techniques et ensuite à se sentir libre. Là maintenant, mes concepts viennent plus de choses qui me plaisent moi, mais en dehors de la photo. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la nature, je vis paumé dans la montagne. C'est des choses qui m'inspirent beaucoup, tout ce qui est autour de moi, les animaux, la faune, la flore. Il peut y avoir d'autres choses aussi qui me plaisent, j'aime voyager. C'est des choses aussi où j'aime m'inspirer quand je vais dans d'autres pays, dans d'autres villes, pour prendre des éléments et essayer de m'imaginer ce que je pourrais en faire avec. Les magasins de bricolage, c'est une source d'inspiration qui n'est pas inépuisable, mais presque. Pour coller des choses sur les visages, c'est parfait. Mais ce qui est important, je pense, surtout pour trouver une idée, c'est déjà de se baser sur des sentiments ou sur des choses qu'on voit, nous, et qu'on interprète d'une certaine manière. C'est la création, je pense qu'elle doit venir déjà de l'intérieur, en fait. C'est souvent quelque chose qui est un petit peu dur à exprimer. Mais trop souvent, maintenant, on se base sur les réseaux sociaux et sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. À force de voir Instagram défiler, on voit tout et n'importe quoi, et tout le monde refait la même chose. C'est vrai qu'en voyant Insta, j'ai l'impression que tout le monde, maintenant... fait la même chose en fait. Donc ouais, la première chose c'est déjà de chercher à l'intérieur de soi et ensuite d'essayer d'exprimer ça à travers un texte ou un dessin. J'essaie toujours de dessiner en fait ce que j'ai en tête, d'arriver à mettre ça sur papier parce que des fois c'est très clair dans la tête et c'est pas très clair sur papier.
C'est vrai que ça aide beaucoup.
Ça aide beaucoup parce qu'en fait si on doit transmettre l'idée à quelqu'un, généralement sur un shoot on travaille avec une équipe, et si on travaille avec une équipe et qu'on a l'idée qui est claire dans la tête mais qu'on n'arrive pas à l'exprimer, c'est hyper compliqué, on n'arrivera jamais à réaliser ce qu'on a en tête. Donc c'est très important d'arriver à le mettre sur papier. Ça peut être un texte parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très mauvais en dessin, ça peut être un collage de photos. Du moment où on a l'idée, on va chercher sur Pinterest, sur Instagram ou sur Google Images des images qui nous inspirent, qui ressemblent finalement à notre idée ou qui ressemblent à des éléments de notre idée pour ensuite pouvoir l'exprimer à des gens. Et ce qui est important aussi, c'est que du moment où on a fait ça, on arrive à analyser l'idée et à dire ok, ça c'est bien ou ça va pas marcher, et essayer de sortir à chaque fois, à chaque étape, trois points en fait qui sont positifs et négatifs, et à refaire le processus de mise sur papier pour arriver à vraiment avoir quelque chose qui est bien analysé en fait, où on se dit ok, là j'ai l'impression qu'il y a plus ou moins tout qui devrait marcher, donc maintenant on peut passer à la partie de production. Bon, avant la prod, il y a encore d'arriver à trouver une équipe
de l'organisation, ouais, c'est ça,
de l'organisation qui prend aussi pas mal de temps, et c'est vrai que c'est un petit peu ce que j'ai moins fait l'année passée, mais d'arriver à trouver finalement une équipe avec qui bosser, et ça peut prendre aussi du temps. J'ai de la chance d'avoir une copine qui est maquilleuse, après je connais aussi 2-3 autres maquilleurs, dans la coiffure aussi j'ai 2-3 contacts. C'est des contacts aussi qui sont généralement au fur et à mesure, à force de travailler avec une personne qui d'un coup prend quelqu'un en assistant, et on rencontre un petit peu des personnes comme ça. Après, il y a des agences aussi pour les modèles. En général, je passe par des agences. C'est vrai que passer par les réseaux sociaux, je le fais encore de temps en temps, mais j'aime un petit peu moins. J'aime bien passer par une agence où je suis un petit peu plus au clair du profil que j'aurai devant moi le jour du shoot.
Parce que
sur les... Oui.
Alors, je suis désolé, je te coupe rapidement, mais la question que je me pose, c'est ça veut dire que sur des projets comme ça, qui vont sans doute parfois aussi être des projets personnels, si tu passes par une agence ou si tu fais appel à des make-up artistes, c'est pas gratuit.
Ça dépend des projets. Généralement, en agence, j'essaie de travailler en faisant... après, c'est un petit peu compliqué parce qu'en Suisse, on a une manière de travailler du fait que le marché est très petit qui est très différente de la France. Si je contacte en France une agence en disant que je veux faire du test et en montrant les projets que je propose ici en faisant du test, je pense que genre à Paris je me fais remballer sans même avoir parlé du projet, dans le sens où c'est pas du tout ce qu'ils recherchent pour du test. Que ici j'ai de la chance où le test est plus interprété comme la collaboration et du coup, en général je peux faire un petit peu ce qui me plaît. Du moment où il y a comme 2-3 images qui sont utilisables par l'agence pour mettre dans le book du modèle,
c'est super intéressant.
Faire ce que je veux. Après,
oui, pardon. Oui.
C'est intéressant. Mais après, je voulais juste finir ça, c'est en disant, je me suis perdu en disant, ouais. Par contre, c'est quand tu fais du test, c'est des new faces. Donc ça, c'est aussi un truc qu'il faut être conscient, c'est que j'ai pas non plus des mannequins qui sont forcément pros et qui savent poser. D'autant plus que les new faces en Suisse ont pas l'expérience du test comme on peut l'avoir à Paris. Quand je shoot à Paris, c'est vrai que c'est pas du tout pareil, quoi.
D'accord, parce que oui, ce qui est intéressant pour moi à noter quand même là-dedans, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, on peut faire appel à des modèles professionnels. Alors, c'est ce que tu appelles les new face, donc je pense que c'est des débutantes, hein, c'est ça, ou des débutants.
C'est ça.
C'est des jeunes, c'est des personnes qui viennent d'être modèles dans une agence, hein, c'est ça, donc qui ont été repérées, qui ont peut-être une petite expérience perso pour poser à gauche à droite en faisant des collaborations, mais qui n'ont pas encore l'expérience d'une modèle pro ou d'un modèle pro qui va vraiment connaître son meilleur profil, comment poser, comment la lumière interagit, etc., et qui va vraiment pouvoir être en osmose avec toi, hein, j'imagine.
C'est ça.
Donc, ce qui est intéressant, c'est quand même on peut donc prendre son téléphone, appeler une agence et au culot proposer avec quelques photos à l'appui pour montrer son travail, proposer du coup une collaboration, donc win-win avec une agence, quoi, et qui serait susceptible, et elle serait susceptible d'accepter pour embellir le portfolio du coup de la modèle, et donc c'est là où eux ils trouvent leur compte, en fait.
C'est ça. C'est pour ça que je dis aussi en Suisse, j'ai de la chance, parce que du fait qu'il y a moins de photographes, il y a beaucoup de modèles, mais il y a moins de demandes, je pense, auprès des agences, il y a moins de jobs aussi. J'ai un peu plus de liberté, c'est pas la même chose que quand on est en France, mais c'est effectivement exactement ce que tu dis. Et après, c'est clair qu'il faut aller au culot, parce que c'est un domaine de toute façon qui marche au culot. Pour avoir des clients aussi, il faut prendre son téléphone, il faut envoyer des emails, il faut pas attendre que les clients nous tombent dessus. C'est pas comme en mariage où on a un site, il y a le référencement et c'est cool, les gens arrivent. Ça n'a rien à voir. Là, c'est à chacun de se bouger, et si on a le job en fonction de comment on se bouge.
Et du coup, alors comment as-tu appris à diriger une modèle ? Est-ce que tu l'as fait sur le tas ? Est-ce que tu as pu suivre d'autres photographes spécialisés ? Comment tu t'y es pris ? Est-ce que ça a été facile pour toi ? Est-ce que c'est peut-être toujours un calvaire, si on va dans les extrêmes, ou est-ce que ça se passe bien ?
Ça dépend beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup diriger les modèles. J'ai généralement une idée en tête que je donne. Ça veut dire que je fais toujours la photo que j'ai envie de faire, et après je laisse un peu poser en me disant, on verra si on trouve un peu mieux ou pas. Après, je suis pas du genre non plus à shooter 300 photos par shoot. Généralement, quand j'ai la photo qui me plaît, je m'arrête. Ça peut être après 5 photos, comme ça peut être après 20. Ça dépend beaucoup. Et la direction, c'est venu un petit peu avec le temps et avec l'expérience. Comme je disais avant, je suis assez introverti. C'est vrai que sur les shoots, je suis pas trop du genre à crier et à me faire entendre, sauf quand vraiment il y en a besoin, ou avec l'équipe. Mais avec les modèles, je suis assez calme. J'ai plus tendance à diriger avec les mains en fonction de ce que je vois dans mon viseur, à moins d'avoir vraiment un projet précis et d'avoir une idée précise. Ou des fois, du coup, je vais m'avoir un mood board de pose pour donner à le modèle en disant, voilà, c'est un peu ce que j'imagine. Est-ce qu'on arrive à se rapprocher de ça? Et après, je fonctionne avec ça, mais je suis pas comme certains photographes de portraits. D'autant plus que ce que je fais, je pense que c'est un peu différent par rapport à la pose, où j'ai souvent un peu moins besoin de diriger. Du fait de travailler avec des gens qui sont en agence, même si des new faces, elles ont généralement quand même, je dis elles, mais les hommes aussi, je suis aussi avec des hommes, les modèles en général, ils ont quand même une petite idée plus ou moins de ce qu'ils peuvent, ce qu'ils doivent faire. Donc c'est vrai que ça aide.
C'est quand même beaucoup plus agréable. Moi, j'ai effectivement, alors de mon côté, toi, j'ai shooté aussi un peu de mode, pas beaucoup, hein, j'en ai vraiment pas fait beaucoup, mais pour le peu que j'ai fait, j'ai uniquement shooté avec des modèles amateurs, et c'était pas toujours facile, hein, une modèle amateur qui arrive est forcément moins professionnelle dans sa façon, dans son sérieux déjà, l'horaire. c'est bête, hein, mais l'horaire, le sérieux pendant le shoot, l'écoute, et comme je te disais tout à l'heure, la capacité à réagir vite ou à peut-être même suggérer des choses. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, être vraiment dans une discussion ouais. sur certains projets, certaines choses, demander aussi un avis, avoir quelqu'un en face de moi qui a quelque chose un petit peu à partager et qui soit pas juste spectateur du shoot. Je trouve ça plutôt agréable. Et c'est un peu ce que je reprochais moi au modèle amateur, donc c'est cool que tu me dises ça. Du coup, j'ai peut-être revoir ma façon aussi de faire des shoots de modèle homme ou femme. J'ai peut-être contacté des agences.
Bah après, tu peux avoir des bonnes surprises aussi sur les réseaux. C'est vrai que je suis tombé sur certaines personnes des fois où c'était hyper cool. Après, je regarde aussi quand même un peu leurs photos, les photographes avec qui ils ont shooté. Quand je prends sur des réseaux sociaux, c'est vrai que si je vois qu'ils ont shooté avec des gens dont j'apprécie moyennement le travail, c'est aussi des personnes que je vais pas forcément avec qui je vais pas forcément shooter en termes de modèle. Ça me donne aussi une indication du genre de style qu'ils aiment, du genre de photos qu'ils ont l'habitude de faire, et ça donne une bonne indication que ça va correspondre à ce que toi tu cherches dans tes projets, et ça c'est aussi intéressant et c'est important. En agence, t'as pas forcément besoin de faire cette démarche. Dans le sens où tu écris à l'agence, tu dis voilà, j'ai tel et tel projet, j'ai besoin d'un profil comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que vous avez quelqu'un qui correspond ou quelqu'un que vous pensez pourrait correspondre mieux que mes critères? Et après, ils te renvoient une sélection. Alors, on appelle ça un package, c'est un petit peu brutal comme appellation. Et toi, tu fais ta sélection. C'est vraiment comme au supermarché, c'est absolument horrible. Et après, bah, voilà, ils t'organisent ton truc et tu peux shooter. Donc c'est vrai que c'est clairement plus facile au niveau de l'organisation. Tu as moins de surprises. Ce que tu dis aussi par rapport aux horaires, par rapport au professionnalisme, les gens qui sont en agence, même quand ils sont débutants, généralement, ils sont quand même plus ou moins drillé de qu'est-ce qu'ils doivent prendre, avec quoi ils doivent arriver sur le shoot. Et c'est intéressant aussi par rapport à ça, t'as pas trop de surprises. J'en ai eu quand même quelques-unes, mais qu'on fait remonter à l'agence pour éviter que ça se reproduise.
Ok, bon, c'est super intéressant du coup, comme c'est bon à savoir, bon à savoir. Et écoute, on va enchaîner sur la partie matos quand même, mais alors vraiment rapidement, parce que voilà, on le sait, c'est pas l'essentiel, mais quand même, c'est assez, ça reste intéressant. Est-ce que tu peux nous dire avec quoi tu travailles au quotidien, ton matériel de prédilection? Et puis vu que tu es quand même spécialisé dans la lumière artificielle, est-ce que tu peux nous dire un petit peu avec quoi tu travailles en studio?
Au niveau de l'appareil, là, actuellement je travaille avec un D810. Les gens me disent toujours, mais c'est un peu vieux ça, non? Ça me fait un petit peu marrer, il va très bien, il se porte bien, il vieillit bien. L'objectif, alors j'ai plusieurs objectifs, j'ai un 35, un 8, un 24, un 8, un 58, un 4 et un 105 2.8 macro. C'est tout du Nikon sauf le 105 macro qui est un Sigma. C'est un petit peu, voilà, au niveau du matériel ce que j'emploie, mais je dois avouer que c'est principalement le 105 que j'utilise. J'utilise pratiquement que ça en studio. Les autres, c'est plus pour du portrait en extérieur ou du mariage ou pour des vidéos YouTube ou des trucs comme ça. En termes d'éclairage, je travaille exclusivement avec Elinchrome, comme je suis ambassadeur pour eux. Et je travaille avec, là, avec leur flash sur batterie, principalement le ELB1200 et le ELB500, qui sont assez cool, même en studio. Et en termes de modeleur, j'ai un petit peu tout, ça dépend un petit peu des périodes. J'aime beaucoup travailler avec les parapluies, autant les profonds que les standards. Et après, je travaille aussi pas mal avec des bols, pas forcément le bol beauté que j'utilise pratiquement plus. Je pense que ça doit faire presque 2 ans que j'ai pas ressorti mon bol beauté. Je travaille plus avec des bols, donc des réflecteurs. Je sais pas comment on appelle ça, mais j'appelle ça des bols, mais j'ai vu que sur leur site c'est marqué réflecteur. Les petits bols en métal, genre 18-21 cm, ou des choses comme ça.
Mais du coup, c'est pas des bols beauté, c'est-à-dire ça va être quoi la différence par rapport à un bol beauté?
Le bol beauté, il a une lumière qui lui est vraiment particulière, qui est entre de la lumière... Bon, enfin, on va parler un petit peu, c'est pas vraiment le cas, mais de la lumière dure et douce, un petit peu entre les deux. Ça dépend après forcément de la distance à laquelle on place le bol beauté, mais si on le place à la bonne distance, c'est entre la lumière dure et la lumière douce. Du coup, c'est assez flatteur sur du beauté parce que ça évite de faire trop ressortir la texture pour éviter d'avoir trop de retouches, mais elle va quand même être marquée de manière à avoir du détail. On a certains avantages finalement de la lumière douce, mais on a comme des avantages à la lumière dure. C'est un petit peu entre deux. Moi, j'aime mieux une lumière qui est un petit peu plus dure. Et c'est vrai que c'est pour ça que je travaille plus facilement avec des plus petits bols. Et je les place assez proches. J'aime bien ce qui est contrasté.
En fait, la grosse différence, voilà. C'était aussi pour moi une différence physique. Hein, l'objet à quoi il ressemble. En fait, le bol beauté va être plus grand que ce que tu utilises toi. Ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. Et ouais. Donc, toi, tu aimes bien avoir une lumière plus marquée, peut-être avec un parti pris. Voilà, moins. Pas une lumière conciliante, à la fois effectivement douce et dure, mais vraiment quelque chose avec un parti pris. En gros, c'est un peu ça que, ouais. que je comprends dans ce que tu me dis. Ok, super. Tu travailles, juste question rapide, tu travailles peut-être aussi au flash occasionnellement Cobra, ça t'arrive? Ou peut-être en mariage à l'époque? Pas du tout, non. Vraiment, on est
pas
sur...
Pas du tout, je pense que ça doit faire... J'ai racheté un Yongnuo quand j'ai passé sur Nikon il y a 3 ans. Je pense que j'ai dû le sortir 3 fois.
D'accord.
Et les 3 fois, ça m'a gavé, je l'ai rangé.
Par contre, je sais que tu testes le Nikon Z6 en même temps que moi, là, au moment où on enregistre ce podcast, et qu'il te tente beaucoup. Si tu avais 2 mots pour nous dire pourquoi il te tente, ce serait quoi? Vraiment rapidement, c'était pas prévu, mais ça peut intéresser nos auditeurs.
Ben là, actuellement, je suis un petit peu le D810, je l'aime beaucoup. Je sais par contre qu'il va pas me tenir encore des années, parce que j'ai beaucoup shooté avec. Je suis dans une réflexion où j'ai envie de passer au niveau en-dessus, c'est-à-dire de passer sur du moyen format. Je regarde le moyen format gros capteur, donc les Phase One. Et en même temps, je sais que d'avoir un Phase One, ça sera pas le truc qui sera cool pour tous les jobs. Et si je fais de la vidéo pour YouTube, en plus de ça, Phase One, ça va pas le faire. Donc du coup, c'est vrai que le Z6 m'intéresse beaucoup, dans le sens où pour la vidéo, je le trouve très intéressant. Il a un format qui me plaît aussi vraiment dans la main, et en termes de tarif, je trouve qu'il est très abordable pour les fonctionnalités qu'il a. Je trouve que c'est vraiment un boîtier qui est très intéressant. En disant que c'est la première version de boîtier mirrorless de Nikon, je pense que ça promet beaucoup pour la suite chez Nikon.
Et
après, j'ai testé aussi du Sony.
Non, vas-y, je te laisse finir.
Pourquoi pas
le Z7,
Pourquoi pas le Z7, parce que en termes de vidéo, je pense qu'il est moins intéressant, et je pense que ce serait cool d'avoir un truc qui est complémentaire entre la photo et la vidéo.
C'est drôle, du coup, c'est vraiment l'aspect vidéo qui guide un petit peu ton choix aujourd'hui par rapport à ce que tu dis.
C'est ça qui m'intéresse par rapport à un deuxième boîtier, clairement. Okay.
Et donc oui, Sony, tu disais, t'as testé un petit peu de Sony.
Ouais, j'ai testé aussi, parce que je préfère en parler, parce que je sais, quand on parle du Z6, il y a tous les gens qui me disent à chaque fois, oui, mais il y a le SE3 qui est bien aussi, et qui est un peu... Oui, d'accord. Là, c'est simplement que le Z6, j'ai tous mes objectifs chez Nikon, et que ça m'embêterait un petit peu d'avoir à tout racheter chez Sony, surtout que les objectifs maintenant mirrorless sont chers, je trouve, autant chez Sony que Nikon. Et que oui, les Sony sont très cool. Après, dans la main, à part le S7R4, j'aime un peu moins que les Nikon. C'est tout. C'est une question de préférence d'ergonomie.
Je te suis là-dessus.